Je sais pas pourquoi, je t'entends pas très bien. Parle. Parle. Non. Est-ce que t'es allumé par... t'as allumé ton bordel?
Et ça, ça s'appelle pas bien l'allumer, ça peut être?
Si, alors, le récepteur.
Là, alors, par exemple, là, je te hurle dans les oreilles, c'est
là,
ça?
Là, j'adore. Là, je te reconnais bien là, Caroline Melon.
Tout en discrétion.
Ça nous fait chier.
Ce qui est sympa, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'au début, on kiffait d'avoir l'air de régisseur, mais on en a de plus en plus marre de porter des trucs, quand même.
Moi, je trouve que ça va avec, quand même. C'est un peu, ça serait un peu dommage de s'en passer.
Ah, mais t'es trop un aventurier, toi. Alors, je vais prendre quelques photos ici, parce qu'on est quand même dans un endroit très très beau. J'en attends, est-ce que tu peux décrire où c'est qu'on est?
Attendez, je fais face au château.
Donc, on est... On est en ce qu'on appelle en bas de Siam, Siam étant l'artère principale de Brest, piétonne. Tout en bas de Siam, en face de moi, j'ai une partie du port avec ses grues si caractéristiques de Brest, la rade. À notre gauche, le château, qui est un peu l'endroit du patrimoine, évidemment, Brest, à qui il reste assez peu de patrimoine d'avant la guerre. C'est impensif de dire ça. En face, le début de la Pinfeld, le fleuve donc, qui remonte et qui est totalement interdit au niveau de ses berges, puisque totalement réservé aux militaires. Nous sommes à l'entrée du pont de Recouvrance, donc un très très beau pont aussi qui ressemble à deux grands H, un pont un peu énorme qui va vers le quartier de Recouvrance donc. Et à notre droite, la Pinfeld continue, le fleuve, et on a vision sur les Capucins qui vont donc être le lieu de dans lequel le fourneau viendra s'installer en 2023-2024 et que permet de rejoindre ce fameux téléphérique brestois. Et c'est quand même assez génial cette balade en téléphérique, on l'adore à chaque fois. C'est devenu un vrai truc d'attraction aussi touristique à Brest. Quoi.
Pour Jonathan Macias et Caroline Melon, l'aventure continue à Brest. Au bout de la Bretagne. Exactement là où la terre finit. Le fourneau déménage du port au Capucin et le bâtiment XXL du Quartz est en rénovation pendant 2 ans. Pour Caroline et Jonathan, il s'agit d'habiter, de ressentir, d'écouter, de prendre le pouls de la ville, d'humer ses embruns. Dans ce carnet de bord numéro 3, balade du port aux Capucins, des Capucins au port.
Brest a, ces dernières années, probablement pas mal changé d'image.
Benjamin Grebeau, délégué général en charge de la mission stratégie et prospective de Brest Métropole.
Donc le point de départ, c'est peut-être le port de plaisance au pied du château, avec cette marina du château là, qui a été en fait... un premier temps d'ouverture d'espace précédemment militaire, rouvert à la population civile, on va dire ça comme ça.
2012, le tram, 2016, les Capucins.
Caroline Raffin, directrice du fourneau.
Tu vois, dans les grandes phases visibles pour tous les Brestois et qui ont modifié les usages des habitants, le tram encore plus que les Capucins, évidemment.
Bah, qui a généré les premières rues piétonnes dignes de ce nom à Brest, a suivi plus récemment l'inauguration des ateliers plateau des Capucins, la mise en route du téléphérique, et le couple téléphérique-atelier des Capucins est pour moi le point de bascule. Ce projet-là, il nous offre une vue sur la rade et sur la ville qui sont juste phénoménaux. Et donc, effectivement, il donne peut-être des clés de lecture et de compréhension de la ville qu'on n'avait pas jusque-là. Il permet de prendre un peu de hauteur. Et puis, bien entendu, derrière, il y a les ateliers des Capucins qui sont un lieu, une place assez magique. La spontanéité, la diversité des usages qu'on va trouver dans cette grande halle qui est la place des machines. Et puis, bah, tout ce qui va prendre place autour de la place et dans quelques temps, le fourneau.
Il s'agissait de disposer d'un avenir pérenne pour le projet Fourneau. La ville nous a proposé de réfléchir et d'intégrer cet équipement. Je suis ravie qu'il y ait une nouvelle page de l'histoire du fourneau à écrire. Un des gros avantages de ce fourneau différemment d'aujourd'hui, mais dans cette même logique, c'est qu'on est en cœur de ville. Il y a des habitants tout près, tout autour. Des habitants, des touristes, des Brestois qui viennent pratiquer le site parce que c'est effectivement un site aujourd'hui largement approprié par les Brestois. Et c'est tout à l'honneur de ce patrimoine justement qui a su se métamorphoser en offrant un espace de loisirs et de culture et qu'il fonctionne déjà aujourd'hui. Et quand ce projet nous a été proposé de réfléchir à cette évolution, moi tout de suite c'est ce que je me suis dit. La plus grosse réhabilitation patrimoniale de la ville. Alors ça a beaucoup de sens, puisqu'on y fabriquait des navires de guerre quand même, que la ville souhaitait conserver un de ses rares lieux, quelque part qui n'a pas été détruit par la Seconde Guerre mondiale, ça a du sens bien entendu pour en faire une fabrique d'art et d'humanité, ça me touche particulièrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a une diversité de publics qui pratiquent aujourd'hui les Capucins, et je pense notamment aux jeunes de la rive droite, et que prioritairement avant l'ouverture de ce site, ils allaient passer leur midi ou leur temps de pause dans la galerie marchande du Carrefour. Depuis, ils sont dans les espaces publics des Capucins ou à la médiathèque. Et voilà, je suis heureuse de penser que demain, peut-être que tout simplement, ils viendront pique-niquer dans le fourneau, quoi. C'est ce que j'aimerais pouvoir proposer, un espace surprenant, un peu insolite, un peu à l'image de ce fourneau d'ici. Et c'est quand même ça qui ne se retrouve nulle part ailleurs. C'est l'âme du fourneau. C'est ce qu'on perpétuera demain là-bas, même si un équipement nous est conçu neuf sur mesure pour recevoir notre activité. On va ramener nos souvenirs, pas trop, mais et on ne va pas tout effacer.
Penser l'avenir sans perdre de vue d'où on vient, donc quelque part sans perdre son âme, je pense que c'est ça qu'il s'agit d'essayer de tenir comme fil conducteur de la fabrique de la ville. Et je pense que c'est un peu ça la greffe magique des Capucins.
Allô ?
Salut Armel.
Salut Caroline.
Ça va ?
Ouais, ça va bien, ça va très bien.
Armel, t'as la main.
T'as un petit peu de temps, t'es dispo?
Ouais, j'ai un peu de temps, ouais. Je me suis rendu disponible, j'avais vraiment envie de donner suite à la discussion qu'on avait eue là pour le festival.
Alors du coup, on va pas essayer de reproduire la conversation qu'on a eue la dernière fois.
Non,
ça a commencé comme ça. En fait, tu m'as dit que t'étais brestois.
Ouais, c'est ça. Je suis né à Brest et j'ai vécu 18 ans et 15 jours à Brest. C'était mon terrain de jeu en fait. Alors c'était là que tout se passait pour moi. C'était assez riche.
18 ans et 15 jours, c'est quoi le sens de ça ?
Le sens de ça, c'est que j'en suis parti quelque part en claquant la porte. Alors je sais pas, y a pas forcément de point de départ à ça, mais y a eu un moment le sentiment que la vraie vie se passait ailleurs. J'ai pris conscience que j'habitais au bout du monde. Le bout du monde, c'est l'horizon en fait, en point de mire, en tout cas à Brest. Et je me suis rendu compte que l'horizon, ça pouvait être une promesse, mais ça pouvait être aussi une fin en fait. Et j'avais besoin de commencer quelque chose. J'avais ce besoin d'aller voir ailleurs, vraiment. Mmh. Et qui devenait assez pressant avec la rudesse du climat, par exemple. Il pleut quand même. Il pleut pas beaucoup, si on regarde en pluviométrie, c'est assez drôle. Mmh. Mais il pleut souvent. Il pleut très souvent. Et du coup, quand il pleut et qu'on parcourt la ville, on est obligé de baisser la tête pour marcher, pour pas se prendre la pluie dans la figure, tout simplement. Donc, j'avais l'impression de baisser la tête tout le temps. Et 18 ans, 15 jours, j'ai eu mon bac. L'Arsenal s'est ouvert enfin, alors que j'avais passé toute ma vie à faire le tour, parce que c'était en 92, presque 92, où après avoir fait le tour de l'Arsenal, pendant des années et des années, enfin on peut voir ce qu'il y a dedans. Et c'était super, mais c'est arrivé un petit peu trop tard pour moi. Et cet endroit-là a toujours été une espèce de, Bah pour moi, de verrues, c'était des murs assez hauts, c'était des grilles, c'était des fils de fer barbelés, ce qui peut se concevoir. Hein, c'était la marine, c'était l'armée, enfin voilà.
Donc Jonathan, qu'est-ce qu'on fait là ? On s'est
donc
mis en marche, ça y est ?
On descend les escaliers du promontoire sur lequel on était. On va bientôt arriver sur le pont de recouvrance qu'on va traverser sur le côté.
Là, en fait, il faut se rendre compte, enfin nous, en tout cas, ne connaissant pas la ville, il y a toute une corniche sur laquelle on peut circuler, nous, vulgaires civils. Et après, il y a un énorme grillage avec des pointes acérées en haut et donc ce grillage qui empêche l'accès aux rives de la Pinfeld, aux voitures. En fait, il y a toute une ville en bas. Hein. Et il y a sur ces panneaux écrit terrain militaire, attention aux chiens. Et aux chiens, c'est au singulier. Donc ce pauvre chien de. Ah, sacrément du taf. Pardon pour cette blague pourrie. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu notre c'est un peu notre dada là, d'arriver à avoir accès en bas. Pour l'instant, on n'y arrive pas du tout.
Et en fait, quand on parle aussi de la ville d'en bas, en fait, c'est plutôt un lieu de travail, en fait. C'est plutôt des zones de travail militaire. Et je crois de souvenir qu'il y a 2500 ou 3000 personnes qui descendent et travaillent tous les jours dans cet endroit-là.
Tu peux raconter un peu plus ce que ça signifie dans le paysage et dans la sensation d'un endroit interdit, en fait. Tu peux raconter
ouais.
Ça je veux dire, les gens qui ne sont jamais allés à Brest ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire, cette chose complètement hallucinante, en effet, qu'est l'Arsenal.
Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. L'Arsenal est situé de part et d'autre de la Pinfeld, qui est la rivière qui coupe la ville en deux. Et était à l'époque entouré de murs. C'était une zone de défense, de murs avec des barrières qui étaient assez hautes, qui faisaient que on pouvait pas voir à l'intérieur. Le haut des barrières était crénelé, soit avec des barbelés, soit avec des pics. Enfin, et l'entrée dans cet espace-là se faisait par des portes gardées par plutôt des militaires en fait, qui contrôlaient les badges, y compris celui de mon père qui allait travailler là tous les jours.
Et le rapport de ton père à l'Arsenal, est-ce qu'il y avait une forme de fierté d'appartenir à cette... Enfin, tu vois, c'était quoi son rapport, lui, à ce lieu, à cette...
Il y avait un côté très attractif de l'Arsenal quand il y est entré. C'était quelque part une forme d'achèvement, d'être pris à l'Arsenal et l'assurance d'une carrière, de gagner un salaire fixe. Deux de ses frères bossaient à l'Arsenal. Son père avait bossé aussi à l'Arsenal. Et c'était familial, en fait.
Mais ça, c'est ce qu'on nous dit à Brest. Tout le monde à un proche qui travaille ou a travaillé à l'Arsenal.
Oui.
C'est-à-dire à la fois on est dehors parce qu'on le regarde de dehors et à la fois on est dedans parce qu'on a des gens qu'on connaît qui y travaillent.
Exactement.
Quoi.
Quand il était dedans, il était vraiment dedans. Il avait même l'accent de l'Arsenal. Lui avait l'accent de l'Arsenal, des ouvriers de l'Arsenal de Brest. Il y avait cette fierté pendant longtemps et puis il y avait aussi ce côté un peu immatériel et qui a pu lui peser à un moment où il faisait partie d'un tout sans bien comprendre. Sans pouvoir influer sur certaines choses. Et au bout d'un certain temps, un certain nombre d'années, et il a commencé à nourrir aussi du ressentiment par rapport à la peut-être pas la hiérarchie, mais la manière dont les choses étaient organisées qui lui convenait pas. Et voilà, plus le fait qu'il était chef, et ça c'était compliqué aussi pour lui de dire aux autres ce qu'ils avaient à faire, alors qu'il partait du principe que chacun savait ce qu'il avait à faire. Donc voilà, il a eu des sentiments très... très ambigu par rapport à cette carrière-là. Après, il est tombé malade, cancer du poumon, et qui a été diagnostiqué dû au fait qu'il travaillait dans l'amiante la moitié de son temps. Là, c'était un vrai ressentiment sur la fin de sa vie, parce qu'il n'en avait pas conscience du danger qu'il prenait, parce qu'il n'était pas du tout protégé à l'époque. Et je vois bien comment l'État français a fait peu de difficultés pour indemniser les familles, les proches. Puis il y a des gens qui se sont vraiment battus pour faire reconnaître cette maladie professionnelle. Mais vu la largesse de l'État français, moi j'ai pris ça comme un truc pour nous faire taire en fait. À nouveau. Voilà, c'était ça qui était un petit peu toujours ambigu en fait.
Je m'appelle Jacques Killien.
Jacques Killien, ancien ouvrier de l'Arsenal.
Moi, je suis né en octobre 45 et quand j'avais pas tout à fait 14, j'ai passé le concours pour entrer à l'Arsenal. Donc c'était, à l'époque, c'était le Graal quand on rentrait à l'Arsenal parce que ils avaient connu le chômage avant la guerre. Mon père travaillait dans le bâtiment. Son fils qui rentrait à l'Arsenal, c'était ouf parce que quand on rentrait à l'Arsenal, c'est après la carrière se déroulait, on n'avait plus de crainte. Le bruit, c'était infernal, quoi. C'était vraiment, on était dans un enfer de bruit. Tous les gens qui ont travaillé dans ces conditions ont tous des traumatismes. Moi, j'entends pas les aigus quand je vais au quartz. J'ai du mal à comprendre ce qui se chante, ce qui se dit, parce que les aigus, je les comprends pas, donc je perçois. Alors si je vois pas les lèvres des gens qui parlent, enfin bon. Voilà, donc c'était des conditions de travail. Et puis alors, on travaillait avec l'amiante. Et j'ai pas mal de copains qui en sont morts. Quoi. Les conditions journalières de travail, la plupart des bateaux militaires ont des doubles carènes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la coque que vous voyez, et puis il y a une coque intérieure. Et entre les deux, il y a un espace. Et pour passer d'une cloison à une autre, c'est des trous d'hommes, donc c'est des trous qui sont gros comme ça. Et donc, c'est juste pour passer un homme. Quoi. Mais nous, il fallait qu'on passe en plus la pince à souder, le tuyau d'air pour la tronçonneuse. Enfin bon, avec le harnachement, on avait deux bleus de chauffe l'un sur l'autre. Un casque, des lunettes, des machins, quelques outils dans les poches tout le temps et des chaussures de sécurité qui étaient lourdes. Et donc on rampait dans les... Et donc quand on arrivait au bout, après il fallait se retourner ou alors repartir en marche arrière. Et dans des conditions, des fois, j'ai eu peur plus d'une fois de rester coincé et qu'on vienne me chercher, que quand ils se seraient rendu compte de ma disparition. C'est là que souvent je m'émeux, parce qu'on a mené des actions pour la dignité, quoi. La dignité des ouvriers, parce que il n'y avait pas de sanitaire à bord. On ne pouvait pas se laver les mains, donc vous imaginez, il n'y avait pas de pissotière, il n'y avait pas de... Donc on s'est battu pour avoir des sanitaires. C'est là que je m'émeux. On faisait des manifestations, on faisait des grèves aussi, mais des mouvements de protestation pour réclamer plus de dignité dans les conditions de travail. Et entre autres, on a mené des actions très, très efficaces sur le sujet. Et un jour, on est reçu par le directeur. Et je lui ai raconté comment ça se passait, parce que c'était un gars bien. Chaque fois, je n'arrive pas à le dire. Je lui ai dit, je vais vous raconter comment ça se passe. Quand on a besoin d'uriner, on a un seau, on a du savon mou, le savon noir, le savon mou. Donc chacun prend sa portion de savon mou, se lave les mains dans le seau. Bref, on se lave dans une eau qui est croupissante. Enfin, bref, et donc on se lavait dans le bol des pissotières. Donc j'avais raconté ça au directeur. Je pense que ça l'avait choqué. Et quelques temps après, on a obtenu l'autorisation de sortir un quart d'heure avant, plus que ce qu'on avait demandé. C'était notre grande victoire. Voilà, bon, allez, petite séquence.
Mais justement, dans cette émotion que vous ressentez, c'est la question de la victoire ou c'est la question de la compréhension de cet homme? C'est quoi qui...
C'est un peu tout, mais la camaraderie avec les copains. Il y avait une solidarité. On continue à... Ah mince, c'est bête. Ah mince. Enfin, ça nous a marqué, d'autant que le groupe s'est restreint, parce qu'il y en a deux ou trois qui sont morts d'amiante. Voilà, donc l'émotion, c'est ça. D'abord. Puis la victoire. C'est une victoire pour la dignité. La vie d'un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde. Je me rappelle d'avoir des grandes banderoles lors des... ces banderoles, j'ai gardé ça, c'est au fond de moi. Bon, allez, on va parler d'autre chose.
Les Brestois d'aujourd'hui et les Brestoises ont aussi envie d'être fiers enfin de cette ville. Il y a aussi une forme de revanche. Je pense que c'est finalement la même histoire que celle que tu racontes,
ouais,
on a, mais qui a tendance, pour donner une image plus angélique de la ville, à camoufler un peu les choses que tu racontes, en fait,
oui.
à moins les raconter.
Effectivement, il y a une revanche à prendre, oui. Il y a une vraie revanche à prendre. Et ça ne viendra pas, ça mettra au moins plus quelques générations, à mon avis, quoi. Donc parce que ça a été malmenant pour ses habitants à plusieurs endroits. Et effectivement, oui, il y a une revanche à prendre. Mais les Brestois sont en train de la prendre, la revanche. Je le vois à chaque fois que j'y retourne. J'ai cette chance-là, entre guillemets, de ne plus y être et de l'avoir regardé de loin. Et je sais que la manière dont cette ville évolue aujourd'hui me plaît aussi beaucoup. On sent quand même qu'il y a une capacité à faire et que l'art est plus visible aujourd'hui à Brest qu'il ne l'était à mon époque. Et rien que ça, déjà, c'est une belle revanche sur la dureté de cette ville. Les artistes comme Jussek m'ont permis de faire le lien aussi avec ce qu'il écrivait dans ses textes, un peu mettre en lumière pourquoi j'avais quitté Brest. Son premier album s'appelait Boire et le gars venait de Brest. Ils envoient une espèce de punk rock acoustique avec un son un peu dégueulasse en fait, mais que j'ai trouvé génial. Et avec des textes qui m'ont parlé tout de suite en fait. C'était vraiment Brest. C'était leur vision et ça rejoignait la mienne et ça expliquait beaucoup de choses des raisons pour lesquelles j'étais parti en fait. Donc c'est hyper cru, c'est rugueux, ça se passe mal, c'est compliqué, et tout l'album est comme ça, et puis il y a des petites lueurs parfois, mais ça retombe.
Quand tu dis, tu comprends, Mioseck te permet de, les textes de Mioseck te permettent de poser un regard là-dessus, tu peux nous citer une chanson ou des choses qui pour toi font particulièrement sens ?
Je crois que le dernier morceau s'appelle « Que devient ton poing quand tu tends les doigts ?» Et moi, ça m'a fait longtemps. Ça m'a fait longtemps. Que devient ton poing quand tu tends les doigts? Et moi, j'ai desserré les poings, et j'ai tendu les doigts, et je suis parti. Et ça va beaucoup mieux.
Larmes quand tu ne les essuies pas, que devient ton rire la nuit sous d'autres toits? Que deviennent tes lèvres murmurant tout bas des mots pleins de fièvre? Un autre que moi disent-elles les mêmes choses que nous deux autrefois? Que devient ton poing quand tu tends les doigts?
Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent quand on touche de l'argent qui est lié à ça? C'est quand même pas rien en fait, symboliquement.
Non, tout à fait, tout à fait. C'est une très bonne question. Il y a une partie qui part en travaux. Tout ce que j'aurais pu demander à mon père de faire et que je suis pas capable de faire moi-même. Après, très concrètement, il me manque terriblement dans ces moments-là. Mais ça sert à remplacer ses mains, son intelligence, sa vision des choses, sa capacité à faire, qui était assez incroyable. Et puis il y a une autre partie qui est gardée pour mémoire aussi. Et puis un jour, ça ira sans doute à mes enfants. C'est ce qui est prévu en tout cas. Et voilà. Mais il est toujours là en fait, quelque part par ce biais-là. Mais oui, ça a été assez vite tranché me concernant. Ouais. Ah, c'est une ville qui m'a coûté cher, tu vois. C'est une ville qui m'a coûté cher. Ça restera toujours ça. Après, j'adore y revenir, mais elle m'a coûté cher.
Que devient ton poing quand tu tends les doigts?
Le seul truc que je vous ai pas dit, c'est que mon frère, j'avais un frère et qui est revenu mourir à Brest à 19 ans. C'est aussi pour ça que je garde une épine dans le pied de vis-à-vis de cette ville-là en fait. Et c'est pour ça que cette ville me coûte cher en fait. Et je voilà, parce que ça c'est très vif encore. Donc voilà.
Que devient ton poing quand tu tends les doigts? Que devient ton poing quand tu tends les doigts?
Donc c'est parti, ça marche.
Donc on est lundi 4 juillet et on est chez nous, dans notre coin en Gironde. Ça fait 8 mois qu'on a commencé le projet là, à Brest. Et on avait envie de ne pas perdre nos premières impressions et comment elles avaient évolué. Et là où on en est un petit peu du projet. Du coup, sur ce qu'on a découvert de cette ville, donc moi, le gros choc par rapport à cette ville, c'est vraiment la question de la ville militaire et de tout cet endroit interdit, totalement interdit aux habitants. Un truc totalement impossible à imaginer, que la moitié d'une ville soit interdite à ses habitants.
C'est hyper visible. En fait, il y a vraiment ce côté où à la fois c'est interdit et à la fois c'est à pleine vue, quoi.
Et la ville s'est construite autour de ça, en fait. Donc il y a cette espèce de truc complètement dingue. Et donc c'est un peu, nous, notre baleine blanche. On n'arrive jamais à y aller.
En fait, il y a trois endroits à Brest qui sont comme ça. C'est l'arsenal, du coup le passé industriel, la ville militaire et le port de commerce. C'est pareil, qui est une autre enclave. Il y a plusieurs endroits dans la ville qui sont complètement confisqués, qui sont complètement hors d'atteinte et qui sont des endroits hyper stratégiques parce que c'est tous les endroits de la mer en plus, c'est de la rade, du coup les endroits où tu as envie d'aller.
Et donc aujourd'hui il y a tout ce mouvement vers l'attractivité et le tourisme, donc avec le téléphérique, les capucins, etc., qui sont en fait des aménagements quand même assez intelligents, assez bien pensés, et dont les Brestois, dont les habitants se servent, parce que nous en général c'est ça notre grande une grande partie de notre méfiance par rapport à cette question de l'attractivité et du tourisme, c'est pour qui on construit les villes aujourd'hui. Et c'est que souvent elles ne sont pas construites pour les habitants mais pour les touristes et pour les bateaux de croisière par exemple.
Et alors qu'à Brest, tout le monde nous dit que le plateau des Capucins, et on l'avait vu parce qu'on y est allé, en vrai c'est un vrai espace public fermé pour les gens et du coup les Brestois y sont. Et le téléphérique, je pense, c'est pareil, ça simplifie et ça permet un passage d'une rive à l'autre. Enfin, du coup, cette histoire d'attractivité, en effet, elle est à nuancer et on la comprendra plus dans le temps aussi. Parce qu'en fait, là, on connaît ces projets-là, on voit que les Brestois sont intégrés, quoi.
Il y a un autre truc dont on n'a pas parlé sur les pensifs aussi, c'est aussi la question des explorateurs. Et ce qu'on s'est dit aussi, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a aussi cette espèce d'imaginaire comme ça, très fort, de l'exploration, de l'aventure et tout, mais aussi ce que ça raconte, c'est quand même la question des colonies, de la colonisation du monde, et qu'il y a tout un pan intéressant à regarder sur cette notion de conquête, en fait, qui n'est pas que celle de l'aventure qu'on voudrait nous raconter, quoi. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. En tout cas, on s'intéresse là à aussi essayer de comprendre les choses dans les interstices, quoi. Voilà, ce qu'on nous dit pas dans le discours de la ville.
Ouais, dans ce qu'on nous dit pas et puis dans ce qu'on en découvre. Forcément, le Quartz et le Fourneau sont quand même des endroits centraux de la ville, mais géographiques. Ils sont en plein centre. Voilà, et là, on commence, nous, à élargir le périmètre et à se dire, OK, le centre-ville, c'est très bien, mais il y a des quartiers populaires et tout ça. Et ça, ça demande un peu plus de temps et même d'aller creuser pour aller rencontrer ces gens-là et savoir comment on vit Brest. C'est en effet, tu pars toujours du centre. Et en fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est souvent se décentrer et aller voir comment on vit ailleurs, quoi.
Et puis là, il y a quelque chose aussi dans le processus qui est toujours un peu pareil, c'est-à-dire qu'en effet, au début, on écoute un peu ce qu'on va nous raconter d'emblée de la ville, et puis petit à petit, on va se mettre à aller chercher des chemins de traverse et tout. Et là, ce qu'on pressent, c'est qu'en effet, on a très envie d'aller aux bordures de ville, du centre-ville, de cet endroit-là plus touristique, et de sortir de ça, de comprendre comment on vit dans cette ville aussi, et qu'est-ce qui s'y passe d'un point de vue social. En fait, les podcasts qu'on a fait racontent aussi ça, c'est-à-dire les deux premiers podcasts sont très historiques, très factuels, et plus ça va, plus on a envie d'aller dans quelque chose qui raconte aussi plus d'un point de vue sensible, avec plus d'aspérité peut-être le voyage qu'on y fait nous, quoi. Et c'est un peu notre enjeu de maintenant.
Ouais, et on a même dit qu'on avait envie de travailler sur les gens et les hommes et leur action.
Et les femmes.
Et du coup, ouais, et les gens. Forcément, au début, ce qu'on voit, c'est des lieux et des architectures, et qu'en fait, ces architectures-là, elles sont habitées par des gens et des usagers. Donc, c'est ça qu'on a envie de creuser.
On a fait phase sensible, phase documentaire, et maintenant, ça y est, on rentre en phase de création. Et moi aussi, j'ai hyper envie de mettre les mains dans le cambouis de la ville, d'aller rencontrer des groupes de gens avec qui on va pouvoir travailler sur une forme finale, et puis de commencer à tisser l'histoire qu'on a envie de raconter, quoi.
À suivre. C'était le carnet de bord numéro 3 de Brest 2021-2023. Une production de Chair et d'Os, Caroline Melon, Jonathan Massias, avec Benjamin Grebeau, délégué général en charge de la mission stratégie et prospective de Brest Métropole, Caroline Raffin, directrice du Fourneau, Jacques Quillien, ancien ouvrier de l'Arsenal, et Armel, Jean-Paul et Benoît Talarmin.
Je m'en vais bien avant l'heure, je m'en vais bien avant de te trahir, je m'en vais avant que l'on ne se laisse aller, je m'en vais avant que l'on ne puisse en rire, je m'en vais en gardant toute ton odeur, je m'en vais en te regardant.